Attention passengers.
Vous écoutez Turbulence cérébrale. Une plongée sans masque ni tuba dans les agitations adolescentes. Un podcast radio Agora qui laisse enfin l'occasion aux ados de s'exprimer derrière un micro. Turbulence cérébrale.
Donc bonjour, nous sommes encore sur Radio Agora avec les cinq mêmes personnes. Donc Damien, Mike, Ellie, Maxime et Lancelot. Nous allons encore piocher dans cette fameuse boîte une question et nous allons y débattre. La question. Amis virtuels sont-ils nos vrais amis? Bon bah je veux bien commencer. Alors, qu'est-ce qu'un ami virtuel pour commencer? Un ami virtuel est un ami. Donc un ami, c'est, vous savez ce que c'est. Et un ami virtuel, c'est une personne que nous n'avons jamais rencontrée. Peut-être on la connaît, peut-être nous la connaissons pas physiquement. Mais c'est comme un ami à travers les réseaux sociaux. Ça peut être par oral qu'on peut se parler. Ça peut être sur des applications, sur des sites, sur parfois des jeux qu'on rencontre. Et donc voilà pour le terme ami virtuel.
Bah moi j'ai une question, est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà eu ou qui a un ami virtuel ou artificiel?
Bah moi je veux bien répondre, et personnellement je n'ai pas d'ami artificiel, mais j'ai un ami virtuel que je connais cette personne physiquement, mais la personne ne me connaît pas physiquement, mais on se connaît, on se parle. On s'est rencontrés sur l'application Twitch, et il y a beaucoup de personnes qu'on... Je pense que ça peut être le cas pour tous les joueurs du jeu Fortnite, parce que il y a une fonctionnalité où on peut lancer une partie en comblé. Et comblé, ça veut dire qu'on tombe sur des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on peut rencontrer. Et certaines personnes restent amies avec ces personnes-là.
Bah, artificiel, c'est créé. À mon avis, c'est créé. C'est créé par un créateur ou c'est créé. Et virtuel. Virtuel, c'est par exemple, c'est nous qui l'avons.
Pour moi, artificiel, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été créé de toutes parts, qui n'est pas présent physiquement, qu'on ne connaît pas. Et virtuel, c'est une personne qu'on connaît, mais qui nous parle à travers un site ou Internet. Donc ça peut être anonymement ou peut-être un ami qu'on connaissait avant et on ne peut plus parler physiquement.
Bah, connaître sa tête, bah, je trouve pas ça un bon argument. Par exemple, déjà, sur des plateformes, tu peux mettre une tête qui n'est pas la tienne. Donc, si tu mets une tête d'un mec de 10 ans et que finalement, t'en as 45, bah, je trouve ça un peu spécial. Et, et la voix, bah, en ce jour, y a plein de modificateurs de voix. Donc, je trouve pas ça aussi un bon argument.
Après, je sais que aussi sur certains réseaux, il y en a qui se font entre guillemets avoir. Par exemple,
par exemple, tu
vous
draguez quelqu'un, il s'avère que cette personne, quand vous allez au rendez-vous,
c'est
pas la bonne tête.
J'ai un exemple. Enfin, c'est un youtubeur très connu. Squeezie, je pense que vous connaissez. Il avait raconté une anecdote comme quoi il avait dragué quelqu'un quand il était petit. Et au final, il avait peur que ça aille trop loin, du coup il a complètement bloqué de partout. En fait, ça dépend, il y a différents types d'amis. Il y a certains amis qu'on a parlé quelques fois, enfin, on ne se parle plus parce qu'on s'est éloigné, on s'est un peu oublié. Mais il y a les vrais, enfin, il y a les amis qu'on parlait un peu plus souvent. Par exemple, la personne que j'ai rencontrée sur Twitch, on se parle à peu près tous les jours. Donc ça permet de mieux nous connaître et du coup, plus difficilement, on va dire, nous oublier, nous ghoster. Et ce qui permet de faire plusieurs rencontres. Quand on connaît la personne, on sait son visage, on lui donne un rendez-vous qui peut amener un ami physique, un ami non virtuel.
Après, moi, je sais qu'aussi, par exemple, il y a des jeux comme Valo ou Fortnite, où il y a un groupe d'amis il y a un ami dans le groupe qui invite un autre ami. Donc, du coup, au final... Il y a plein de personnes qui se connaissent pas forcément, mais c'est des connaissances de connaissances. Après,
Je vous pose une question. Est-ce que vous considérez ici, autour de cette table, sauf Mike, que cette personne avec qui il joue, est-ce que cette personne-là peut être considérée, selon vous, comme son vrai ami? Et je passe la parole à Ellie, qui est son cousin de 2-3 ans, son aîné.
Moi, je pense pas, parce que pour moi, un ami, c'est une personne avec laquelle on peut échanger, on peut raconter ses secrets, se confier à cette personne. Mais quand on ne la connaît pas physiquement, ça peut mettre une barrière avec cette personne, parce qu'il faut vraiment l'avoir physiquement pour lui partager ses émotions. Que... Je ne sais pas si Mike est d'accord avec moi.
Bah, personnellement, je la connais physiquement. Enfin, je connais son physique, sa tête, mais je ne la connais pas physiquement. On ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Après, on ne peut pas vraiment savoir, mais c'est des lives. Et des lives, bon, c'est très difficile d'animer tout un live entier sans que ce soit sa vraie tête. Et ça, c'est un peu complexe, on va dire, voire impossible d'animer un live de 3-4 heures et un chat sur Twitch. Donc en lisant le chat, sans être la personne qui anime le live.
Par exemple, une utilisation malveillante. Je suis malveillant, ok. Je viens sur Twitch et je joue avec toi, Mike.
Ouais.
Et je fais un live, et en plus de ça, je te colle une vidéo, et puis j'ai vraiment envie de te faire croire que c'est moi sur la vidéo, parce que j'aimerais bien qu'on se rencontre pour de vrai. Donc je vais mettre une vidéo, parce que c'est possible par un pirate informatique de faire mettre une vidéo à la place de ta webcam. Et puis pour te donner un peu de véracité, pour te donner un peu de grain à moudre et que tu me crois, je vais avoir un deuxième ordinateur, et je vais me connecter au live, et je vais poster des réponses, et je vais y répondre en live. Est-ce que ce sera des preuves suffisantes pour toi ?
Des preuves suffisantes, non, parce que il y a aussi les connaissances de cette personne. Bon, je les connais pas personnellement, mais il y a beaucoup de connaissances de cette personne. Alors peut-être que ça peut être des complices, mais franchement, vu comment c'est détourné, vu comment c'est fait, enfin c'est pas on se parle, c'est que des fois je vais sur ces lives et C'est comme si j'étais un membre, un modérateur, on va dire. Et du coup, on est amis, mais on ne s'est jamais vu physiquement. Et on va dire son but, c'est juste de live. Et si jamais un jour, on veut se rencontrer et qu'elle me fait un coup comme ça, ou qu'on me fait un coup comme ça, ça ne m'étonnerait pas.
Moi, je dirais qu'un ami, c'est une personne à qui on peut faire confiance, un compagnon de route sur le long chemin qui est la vie, qui peut nous aider, qui nous comprend, qui partage des fois la même passion, les mêmes occupations, qui a des fois le même âge. Voilà.
Ça dépend quel type d'ami. Ça peut être un ami de temps en temps, un ami avec qui on se voit tous les jours au travail, un ami avec qui on peut faire des barbecues, par exemple, le dimanche entre familles. Un ami qu'on connaît depuis tout petit, comme l'a dit Ellie, on peut partager nos secrets, on a entièrement confiance l'un à l'autre. Et voilà, ça dépend du type d'ami. Dans l'ami, il y a plusieurs significations.
Moi, personnellement, pour revenir à cette notion de confiance à un ami, il y a des amis que je connais physiquement en qui j'ai moins confiance que mes amis virtuels. Et aussi, pour la définition d'un ami, c'est pas forcément quelqu'un qui partage les mêmes passions ou qui peut être sur la même longueur d'onde, mais pas forcément les mêmes passions. Par exemple, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, on n'a pas du tout les mêmes passions. Par exemple, lui, il aime, je vais dire un exemple, les mangas. Et moi, c'est pas trop mon délire. Moi, ça va plus être le délire instrument, piano. Et même si ça peut ne pas lui plaire, on peut tout de même rester meilleur ami.
Bah, mettre tous les gens dans le même sac, c'est pas une bonne définition, parce que une connaissance, c'est quelqu'un que tu connais, c'est avec qui des fois tu vas passer du temps, alors qu'un vrai ami, c'est vraiment quelqu'un que tu vas voir souvent, que t'aimes bien, alors qu'un proche, tu peux l'aimer ou pas l'aimer, ou une connaissance, tu peux l'aimer ou pas l'aimer. Par exemple, tu peux connaître quelqu'un, mais tu dis à chaque fois que tu le vois que tu l'aimes pas. Voilà, franchement. Mais en soi, une connaissance et un ami, c'est bien différent, parce que une connaissance, c'est quelqu'un que tu connais. Bon, je vais pas dire que ton ami, tu le connais pas, mais un ami, c'est plus que quelqu'un que tu le connais. Genre, des fois, tu vois dont lui a comme un livre ouvert. Des fois, je commence même pas une blague que mon ami il rigole parce qu'il connaît la suite. Donc, c'est.
Y a aussi une notion de complicité entre amis. Si on a vu une si on a une connaissance, par exemple, le fils des amis de mes parents, je le connais pas trop, par exemple, on n'aura pas une si grande complicité. Alors qu'un ami, par exemple Damien à ma droite, j'ai une très grande complicité avec lui, car on se connaît, on a appris à se connaître. Donc c'est plus un ami. Alors qu'une connaissance, c'est plus une personne que tu connais, tu peux lui parler de temps en temps, mais c'est pas vraiment une personne en qui tu auras entièrement confiance.
Avant de vous redonner le micro pour deux dernières minutes d'atelier, j'ai envie de vous parler justement de façade numérique. J'ai envie de vous lire un texte qui a été publié dans un magazine très connu, un quotidien américain qui s'appelle The New York Times. C'était le 5 décembre 2008. Et ce journaliste a fait une expérience assez intéressante à l'époque du début des réseaux sociaux, sans compétences informatiques. Il s'est enfermé 24 heures dans un studio new-yorkais avec l'objectif de remplir une nouvelle rubrique du New York Times. La rubrique en question s'appelle Le Tigre. Et Le Tigre s'est donné une mission, lire dans vos vies virtuelles. Je précise avant lecture pour nos auditeurs que cet article de 2 pages, publié dans le volume 28 du Tigre, était normalement adressé à un certain Marc L., dont le nom a été caché pour des questions évidentes de sécurité. Aujourd'hui, Marc L., on arrête avec toi. On va plutôt penser à un certain Mike L., si ça vous va. Bon anniversaire, Mike. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes 29 ans. Pardon, tu permets qu'on se tutoie, Mike. Tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi, je te connais très bien. C'est sur toi qu'est tombée la malchance, ou la chance, d'être le premier portrait Google du Tigre. Une rubrique toute simple. On prend un anonyme et on raconte sa vie grâce à toutes les traces qu'il a laissées volontairement ou non sur Internet. Comment ça ? Un message se cache derrière l'idée de cette rubrique ? Évidemment. L'idée qu'on ne fait pas vraiment attention aux informations privées disponibles sur Internet et que, une fois synthétisées, elles prennent soudain un relief inquiétant. Mais sache que j'ai plongé dans ta vie sans arrière-pensée. Je préfère te prévenir, Mike. Ce sera violemment impudique, à l'opposé de tout ce qu'on défend dans le Tigre. Mais c'est pour la bonne cause. Et puis après tout, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à faire attention. J'ai eu un peu peur au début d'avoir un problème de source. Pas par manque, mais par trop plein. À cause des homonymes, il y a au moins 5 autres Mike L sur le site Copain d'avant. Mais toi, tu n'y es pas. Ce doit être une affaire de génération. À la fin des années 90 et au début des années 2000, les gens s'inscrivaient massivement sur Copain d'avant et renseignaient leur parcours scolaire pour retrouver leurs copains du CM1. Mais c'était avant Facebook. Ah, Facebook. Mais n'allons pas trop vite. Je t'ai rencontré, cher Mike, sur Flickr, cette immense banque d'images qui permet de partager ses photos avec ses amis. Une fonction que Facebook s'est d'ailleurs rapidement empressé de copier, soit dit en passant. Pour trouver un inconnu dont je ferai le portrait, j'ai tapé « voyage », avec l'idée de tomber directement sur un « bon client », comme disent les journalistes, puisque capable de poster ses photos de voyage. Je t'ai vite trouvé, Mike. Il faut dire que tu aimes bien Flickr, où tu as posté plus de 17 000 photos en moins de 2 ans. Forcément, j'avais des chances d'y trouver tes photos. Alors Mike, belle gueule, les cheveux mi-longs, le visage fin et de grands yeux curieux. Je parle de la photo prise au Starbucks Café de Montréal pendant ton voyage au Canada avec Elena et José, le 5 août 2008. La soirée avait l'air sympa, comme d'ailleurs tout le week-end que vous avez passé à Vancouver. J'aime particulièrement cette série parce que José a fait des photos et ça me permet de te voir plus souvent. Vous avez loué un scooter, vous êtes allé au bord de la mer, mais vous ne vous êtes pas baigné. Vous avez juste traîné sur la plage. En tout, tu as passé 1 mois au Canada. Au début, tu étais seul, à l'hôtel Central, à Montréal. Tu étais là-bas pour le travail. Le travail ? Tu es assistant au service d'architecture intérieure, dans un gros cabinet d'architecte depuis septembre dernier. Merci Facebook, rubrique, profil. Le cabinet a des succursales dans plusieurs villes et a priori, tu dois travailler dans la succursale de Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Ça, je l'ai trouvé par déduction, vu que tu traînes souvent à l'Utopia, le cinéma et café bordelais ou même à Arcachon. Donc, à Montréal, tu étais dans un bureau avec Steven, Philippe et Peter en train de travailler sur des plans d'architecte devant deux ordinateurs, un fixe et un portable. En agrandissant cette photo, on peut même voir que tu avais un portable Packard Bell et que tu utilisais des pages de brouillon comme tapis de souris. Je n'ai pas dit que c'était passionnant, j'ai juste dit qu'on pouvait le voir. Le 21 août, c'est Steven qui t'a accompagné à l'aéroport. Retour en France, où t'attendait un mariage, celui de Juliette et Dominique. Puis la semaine suivante, le baptême de ta nièce, Lola, la petite sœur de Luc. Tu sais, celui qui fait des têtes rigolotes avec ses grosses lunettes à Libourne. Mais revenons à toi, Mike. Tu es célibataire et hétérosexuel. Au printemps 2008, tu as eu une histoire avec Claudia R. qui travaille au centre culturel franco-autrichien de Bordeaux. Elle, je ne l'ai pas retrouvée tout de suite à cause du caractère U qu'il faut écrire avec un tréma ou UE sur Google pour te trouver. En tout cas, je confirme, elle est charmante. Cheveux courts, jolies jambes. Tu nous donnes l'adresse de ses parents d'ailleurs, boulevard V à Bordeaux. Vous avez joué à la pétanque, à Arcachon, où il y avait aussi Lucas T, qui est le collègue de Claudia au centre culturel. Fin mai, il n'y a que 4 photos anodines de ton passage dans le petit appartement de Claudia et une autre, quelques jours plus tard, révélatrice, hein, prise par Claudia elle-même chez elle. Sur une autre, tu te brosses les dents. C'est le 31 mai. 2 jours plus tôt, vous étiez chez Lucas pour fêter les sous de la CAF. Une fête assez sage, mais Lucas s'était mis au piano pour chanter des chansons en allemand et tout le monde a bien ri. Vidéo sur Flickr. Je passe un peu de ta vie, Mike. J'ai triché une fois. Pour avoir accès à ton profil Facebook, ce qui m'a bien aidé par la suite, j'ai créé un faux profil et je t'ai proposé de devenir mon « ami », entre guillemets. Méfiant, tu n'as pas dit « oui », à la différence de Elena C, dont j'ai pu admirer le mur, là où tout le monde laisse des petits messages. Mais tu m'as répondu, en anglais, bizarrement, « Hi, who are you ?»« Best regards, Mike. » Je m'apprêtais à inventer un gros bobard, comme quoi j'étais fan de Vancouver et que j'avais beaucoup aimé tes photos de là-bas, mais au moment de répondre, Facebook m'a prévenu. Si vous envoyez un message à Mike L, vous lui donnez la permission de voir votre liste d'amis ainsi que vos informations de base, de travail et d'éducation pour un mois. Je me suis dit que la réciproque était vraie et je n'ai donc pas eu besoin de te répondre pour avoir accès aux informations de base. Au passage, j'ai découvert que Facebook propose une solution pour éviter les CAPTCHA, les petits textes à taper pour prouver qu'on n'est pas un robot. C'est très simple, il vous suffit de donner votre numéro de portable au site pour qu'il vérifie qu'on existe vraiment. Et voilà. Il restait une dernière information que Facebook n'avait pas, dépêchons-nous de la lui donner. Je pense à l'année 1998, il y a 10 ans, quand tout le monde fantasmait déjà sur la puissance d'Internet. Le Mike L de l'époque, je n'aurais sans doute rien ou presque rien trouvé sur lui. Là, Mike, j'ai trouvé tout ce que je voulais sur toi. J'imagine ton quotidien, ta vie de jeune salarié, futur architecte d'intérieur, ton plaisir encore à faire de la musique avec tes potes à Bordeaux, tes voyages à l'autre bout du monde, ta future petite copine, et je parie qu'elle aura les cheveux courts. Mais il me manque une chose, Mike, ton adresse. Dans ces temps dématérialisés où mail et téléphone portable tiennent lieu de domiciliation, cela me pose un petit problème. Comment je fais pour t'envoyer le tigre ? Je sais quand même que tu es avenue F, mais il me manque le numéro et tu n'es pas dans les pages jaunes. Cela dit, je peux m'en passer. Il suffit que je ne te l'envoie pas, ton portrait. Après tout, tu la connais déjà, ta vie.
À la demande de l'intéressé, ce texte a été entièrement anonymisé et modifié. Ville, prénom, lieu, etc. À la différence de la version parue dans le tigre en papier, dont seuls les noms propres des personnes citées étaient anonymisés. En revanche, ce travail d'adaptation n'enlève en rien le fait que toutes les informations citées sont véridiques et étaient librement accessibles.
Est-ce que ce marque-là, qui a été la proie du journaliste Le Tigre, est un ami du tigre ?
Non.
Il faut que l'amitié soit réciproque. Donc, si Marc ne s'est pas exprimé, non.
Bah, Marc, il connaît même pas le tigre, donc franchement, c'est pas du tout un ami, vu qu'à partir du moment où il connaît pas, et en plus, moi, je trouve ça flippant que le tigre, il connaît presque toute sa vie, mais que Marc, il ne connaisse bah, rien de la vie du tigre.
Moi, je suis sûr que dans ce texte, même si le, bah, Marc, il relit le tigre, il aura même oublié des choses qu'il a faites. Du coup, le journal, il raconte plus de choses que lui, il en sait, que lui, il sait sur lui-même.
Et rien qu'avec un outil, donc les réseaux sociaux, on peut trouver le quotidien d'une personne. On peut trouver toute une journée, toute une semaine, toutes les activités de la semaine, voire même tout un mois, toute une vie, si ça devrait être un métier.
Et on peut même faire croire à la personne derrière l'ordinateur ou le téléphone qu'on partage ses avis, qu'on partage ses valeurs, et s'en faire un ami virtuel.
Mais un truc à dire, c'est que... attendez, j'ai oublié ça. Ah oui, voilà. C'est que, par exemple, on divulgue des informations, comme vous avez dit, mais nous en divulguons, mais la personne aussi en divulgue. Si on voit que juste la personne écoute et ne dit rien de sa vie, elle dit « Ah, ok, elle dit rien », on dirait qu'elle prend les informations, elle les note quelque part. Ça fait un peu peur, du coup, faut savoir aussi... Enfin, une amitié virtuelle, c'est aussi savoir la vie, enfin, c'est que chacun connaît la vie de l'autre, le quotidien de l'autre.
Élie, par exemple, est-ce que tu penses que si la personne virtuelle avec laquelle tu discuterais sur un réseau social répond et pas uniquement dans l'écoute, est-ce qu'est-ce qu'elle te dit est forcément vrai?
Non, elle peut mentir sur sa vie, sur les informations qu'elle donne, sur son âge.
Alors évidemment, peut-être que les amis virtuels existent et peut-être que des gens peuvent avoir rencontré des amis virtuellement qui sont devenus de véritables amis, mais moi je dirais plutôt qu'ils ont rencontré des connaissances et qu'ils s'en sont fait des amis.
Moi j'aurais une citation.
Et ce sera le mot de la fin, on t'écoute.
C'est la citation d'un tweetos, donc la citation de Al-Majd, qui dit « Ami virtuel peut valoir mieux qu'un ami en chair et en os ». Et je suis un peu d'accord, pas toujours, mais généralement non, mais je suis plutôt parfois d'accord dans certaines situations. Car on peut prendre l'exemple du youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez, mais Sora, qui est un youtubeur français qui a rencontré donc actuellement ses meilleurs amis sur Internet. Pendant 3 ans, ils ne se sont jamais vus, mais ils se connaissaient. Par exemple, ils se connaissaient, ils connaissaient leur caractère, ils se connaissaient aussi physiquement, et ce qui a permis au final de se connaître physiquement dans la réalité, et qui sont maintenant, on va dire, un groupe de 4 amis, donc 4 amis un peu inséparables.
Mais ça, c'est sûrement une exception. Par exemple, il y a dû avoir beaucoup d'autres relations avec des personnes en ligne, et donc, à mon avis, là, c'est une exception, je pense, parce que tu peux parler à une personne, dire « Ah, c'est ton ami », après tu dis « Ah, bah, quelques années plus tard, tu dis « En fait, j'en ai marre de cette personne » et tu arrêtes. » Là, c'est un cas très spécial, parce qu'ils ont réussi à... Ils ont dû avoir beaucoup de points communs et beaucoup... j'ai pas le mot, mais... Enfin, ils devaient déjà s'aimer à distance, parce que pour qu'ils deviennent amis, quand ils se rencontrent, il faut déjà qu'il y ait... Ben là, par exemple, c'était 3 ans qu'ils se connaissent, donc je ne pense pas que toutes les relations avec un ami virtuel durent aussi longtemps.
En tout cas, est-ce qu'on peut finir cette émission en se disant que les deux choses existent, à l'évidence, mais qu'il faut redoubler d'attention avec les potentiels amis virtuels? Ça vous va comme ça?
Oui.
Merci. Merci à vous.
Ah, quand même.
Attention passengers.
Turbulence cérébrale. Une plongée sans masque ni tuba dans les agitations adolescentes. Turbulence cérébrale.